Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepp.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Libero per il traversone pericoloso, amore! Orsic! Pirlo, ancora Pirlo, di tecco, tiro! Grosso! Grosso!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio e Pépé, le podcast 100% foot italien. C'est le premier podcast de l'année 2024 et je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Meyer-Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour Monsieur Ivan Crochet et meilleurs vœux tout le monde quand même. Aguri, comme on dit en Italie, donc aguri à tutti.
Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le football italien, mon cher Guillaume?
Écoute, déjà un bel Euro 2024.
Ouais.
Voilà, ce serait déjà pas mal. Peut-être conserver notre titre, parce qu'il faut rappeler quand même que l'Italie, non sans mal, était championne d'Europe depuis 3 ans.
Il y a eu des événements entre-temps qui nous ont fait oublier ça, mais effectivement.
Très légèrement, mais espérer un bel Euro, espérer aussi, Johan, une sérénité retrouvée du côté de la Serie A. On sait qu'en ce moment, il y a arbitrage, polémique, il y en a beaucoup, donc retrouver un peu de sérénité. Mais non, on va espérer une belle année de football avec du bleu. Du spectacle, on a envie de se faire plaisir. Donc voilà, on va essayer.
Et est-ce qu'on n'aimerait pas une petite Coupe d'Europe quand même aussi
Écoute, pourquoi pas? On pense à quoi, Johan?
Ligue des Champions. Tu sais, au point où on en est, on prend tout, nous. Hein, donc, même si la Fiorentina veut nous régaler avec la Conference League, on prendra aussi. Hein.
Exactement. Roma, Milan, Ligue Europa. Ouais. Lazio, Naples, Inter en Ligue des Champions. Pourquoi pas? Écoute, au moins qu'on ait des beaux parcours comme celui de l'Inter l'année dernière. Hein, qui avait
ouais,
été super.
Exactement.
C'était passé pas loin. Donc, on a envie de vibrer. Voilà. On veut vibrer en 2024. On veut du foot. On veut du spectacle. Donc, voilà. On va espérer se faire plaisir. Mais en attendant, encore une fois, meilleurs vœux à tous nos auditeurs et tous nos auditeurs fidèles, Johan, qui sont toujours là avec nous dans cette belle aventure.
Exactement, on en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui nous ont fait des retours sur le calendrier de l'Avent. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de feedback. Visiblement, ça vous a beaucoup plu, donc on est ravis parce que ça nous a pris quand même pas mal de temps, Guillaume. Mais en tout cas, on est content d'avoir fait ces petites pastilles où on a mêlé le foot et ce qui a beaucoup marché aussi, Guillaume. C'est évidemment tout ce qui concernait la gastronomie italienne, les fêtes de fin d'année, etc. Donc, vraiment, merci à vous pour tous vos retours. Un petit instant promo, on rappelle qu'il y a la boutique maintenant de Calcio EPP, calcioepp.shop, où il y a des affiches, des posters, à la fois en papier et sur des plaques d'aluminium. Donc, déjà eu des commandes et des bons retours. Donc, merci également pour le soutien à ce niveau-là. Et Guillaume, aujourd'hui, mon cher Guillaume, on va s'intéresser à la stratégie sportive de la Juve en nous demandant si le club n'a pas trouvé finalement son modèle avec deux axes clairs qui sont ensuite mixés, les cadres performants, de préférence, si c'est possible, des Italiens, parce qu'on va le voir, ça a un impact aussi direct sur la nationale, et aussi des jeunes joueurs à qui on donne de l'espace pour s'exprimer. Et le premier point, Guillaume a abordé quand on évoque un petit peu cette stratégie de la Juve, c'est déjà rappelé que c'est très récent.
Oui.
Alors, ça s'inscrit dans une stratégie globale qui date d'il y a quelques années quand même, mais l'espace donné aux jeunes joueurs est plus récent. Disons que les jeunes Guillaume n'ont pas été simplement recrutés pour être revendus et donc faire des plus-values. On sait que les précédents dirigeants, et notamment Andrea Agnelli, étaient à la chasse à la plus-value pour améliorer le bilan comptable. Mais désormais, c'est aussi une vraie politique sportive en se disant, il faut qu'on les fasse jouer parce qu'ils vont nous apporter aussi déjà à nous, avant ensuite éventuellement de les revendre.
Exactement, il y avait eu, si on se souvient, le lancement de la Next Gen, quand même.
Ouais.
Et ça, quand même, une équipe voilà, en série C, on le rappelle, en troisième division, c'est quand même quelque chose de nouveau à l'époque. Alors aujourd'hui, on a quand même beaucoup de rumeurs sur le fait que plusieurs clubs pourraient suivre le mouvement, enfin, soit l'Atalanta et d'autres.
L'Atalanta, c'est fait, mais les autres.
Voilà, mais on sent que, voilà, tu vois, même l'AC Milan, même l'Inter, voilà, il y a quand même une envie de suivre le mouvement de la Juve et de la DA parce que ça fonctionne, Johan, et parce que quand même ça permet aux joueurs italiens déjà de jouer à un niveau quand même qui est supérieur à celui de la Primavera, de se rapprocher quand même du niveau, on va dire, professionnel. Mais aussi la Juve, voilà, on a le sentiment que depuis quelques années, tu l'as dit, elle a pris avec ses nouveaux dirigeants ce virage idéologique, tu sais, qui est un peu quand même, on va dire, un mouvement dans le football. Ou en Italie, c'est de plus en plus le cas. On a vu le Napoli de Spalletti qui a été pioché ici et là et qui a réussi à remporter le Scudetto. L'AC Milan qui avait fait l'année d'avant. Donc en fait, la Juve, par volonté, a voulu prendre ce virage-là avec les jeunes. Mais on va aussi en parler, Johan, elle a été aussi quasiment obligée de le faire par contrainte
Ouais.
parce qu'il y avait des problèmes économiques. Je crois que tu as le chiffre, notamment, tu sais, de l'augmentation de capital sur les
Exactement.
dernières années.
C'est ça. La volonté était de créer une deuxième équipe pour développer les jeunes. La contrainte a été de les faire jouer en équipe première parce qu'au départ, vraiment, la volonté était de s'appuyer sur cette deuxième équipe pour les valoriser et les revendre. Là, on a le sentiment, évidemment, qu'il y a une logique de revente aujourd'hui, parce que tout le football italien ne pense qu'à ça, de toute façon, vu la situation économique. Et puis, je dis football italien, mais attention, hein, en Allemagne, on a aussi cette logique-là maintenant, en Espagne également, à peu près partout, sauf en Première Ligue. Encore que, on pourrait en discuter un petit peu. Et effectivement, la contrainte, elle a eu lieu parce que ce n'est plus possible aujourd'hui, après. En 4 ans, trois augmentations de capital qui ont amené une injection de 900 millions d'euros dans les caisses de la Juve pour combler des déficits structurels extrêmement lourds. Aujourd'hui, Exor et John Elkann ont décidé de dire stop. Alors, pas drastiquement, hein, ils ne vont pas couper le robinet comme ça, clairement pas. Ils sont en soutien, en support de la Juve et c'est très bien d'ailleurs d'avoir un propriétaire, hein, Guillaume, aussi impliqué. Dans la vie du club, mais ils ont aussi dit à un moment donné, il va falloir aussi qu'on retrouve des bilans économiques un petit peu plus sereins pour pas qu'on soit obligé tous les années et demie, tous les ans, années et demie, d'injecter entre 200, 300 et 400 millions d'euros en fait.
Et surtout que les joueurs prêtés, Johan, de la Juve, à chaque fois, plus ou moins, même dans des autres clubs, que ce soit en Serie A ou en Serie B, bah, faisaient quand même du bon boulot. Donc, au bout d'un moment, la Juve, alors, il y a cette politique aussi de je prête un joueur, évidemment, pour qu'il ait du temps de jeu, parce que moi, je ne peux pas le faire jouer. Du coup, je le fais grandir dans une réalité, voilà, dans un club moins huppé et qui n'a pas autant d'attentes, parce qu'on le sait, la Juve aussi est programmée pour gagner. C'est un club aujourd'hui qui est en manque de titres depuis quelques années. Donc, il y a aussi une pression médiatique, une pression des supporters. Donc, laisser la chance aux jeunes, ce n'est pas évident. Mais même au niveau des supporters, Johan, et c'est là où je voulais en venir, j'ai l'impression quand même que, Après ces années, on va dire, où ça a été compliqué, des années de disette, où le jeu, voilà, reste, on va dire, voilà, au centre du débat, même si aujourd'hui ça va au niveau du classement, on va dire un peu mieux, qu'il y a quand même ce duel pour le titre avec l'Inter qui prend le pas sur, on va dire, le contenu. Mais du côté des tifosi, on le sent, même au niveau des réseaux sociaux. Alors évidemment, c'est un échantillon et on peut pas résumer ça aux réseaux sociaux, mais on voit là globalement que tous les supporters de la Juve, ou quasiment tous les supporters de la Juve, ont envie de voir des jeunes, ont envie de les voir grandir, ont envie de voir leurs produits, leur formation, parce qu'elle est bonne. Et plutôt que d'envoyer des jeunes ici et là, bah, pourquoi pas les lancer? Et on voit, cette saison notamment, que ça fonctionne. Donc, j'ai l'impression que tout l'environnement Juve et les supporters en prémisse, même avant les dirigeants, ou quand ça n'allait pas, ils disaient non, mais vu que sur le terrain, voilà, c'est pas la folie, pourquoi pas donner sa chance aux jeunes plutôt que de recruter, on va dire, des joueurs plus expérimentés, alors que voilà, c'est pas très productif. Voilà, pourquoi pas lancer les produits de la formation. Il y a aussi un seuil de tolérance qui est plus élevé maintenant avec les jeunes de la Juve. Il y a plus de patience autour de ça. Et voilà, j'attends que toutes les composantes de la Juve et les dirigeants, on va dire en dernier lieu, ont enfin compris que c'est une politique qui peut marcher et aussi Johan, qui peut te faire gagner. Parce que bon, voilà, ça reste le nerf de la guerre quand tu es un club comme la Juve, qui est dans une situation économique, tu l'as dit, compliquée. Mais voilà, donner sa chance aux jeunes, ça ne veut pas dire retarder des trophées, des victoires. Forcément, voilà, ça prendra peut-être plus de temps, mais en compensation de ça, tu as aussi plus de tolérance de la part des tifosi.
Ouais, parce que les tifosi, je veux dire, ils sont pas bêtes, en fait. Comme tous les tifosi, ils voient bien, ils ont des yeux comme tout le monde, hein. Donc, ils voient bien aussi comment ça se passe ailleurs. Ils voient que le Milan est champion avec plein de jeunes. Ils voient que le Napoli est champion avec aucun joueur de grande expérience et des joueurs qui, en dehors de Naples, que serait-il? On le voit aujourd'hui, hein, sans Spalletti et le jeu. Qu'est-ce qu'il advient d'un joueur comme Lobotka? Qu'est-ce qu'il advient d'un joueur comme Rachmani? On n'a pas affaire à des cracks, en fait. Les cracks sur le papier, ça a une valeur à l'instant T, mais sur la durée d'une saison, il n'est pas dit que ça amène plus que d'autres joueurs. Je prends un exemple tout bête, hein, Guillaume. Qui de la doublette Pogba-Paredes ou de la doublette Miretti-Fagioli a le plus apporté à la Juve la saison dernière en termes de performance?
Bah, je
Ouais,
pense que tu as
c'est.
la réponse,
Ben oui,
évidemment,
c'est
évidemment,
très
bien
clair.
sûr.
C'est bien beau dans cette volonté de gagner tout de suite. Le terme anglais, c'est instant team, c'est-à-dire une équipe qui est capable de gagner instantanément tout de suite. C'est bien beau de prendre des Ramsey, des Paredes, des Pogba, des mecs qui ont été bons il y a plusieurs saisons. Une, deux, trois, quatre, cinq, ça dépend. Parfois, il faut remonter assez loin. Pogba, il fallait remonter quand même assez loin pour retrouver un Paul Pogba vraiment performants et aptes aussi sur le terrain, sans blessure, etc., qui sont pas recrutés pour beaucoup d'argent en termes de montant de transfert, mais qui ont des salaires énormes pour des apports qui sont finalement très discutables en termes de résultats et de niveau de performance. Donc les supporters de la Juve, ils voient tout ça, ils ont des yeux comme tout le monde et ils se disent, mais attends, Miretti-Fagioli, pourquoi c'est pas mieux que Paredes-Pogba? Donc pourquoi on n'irait pas dans cette direction-là? Ça ne veut pas dire qu'il faut en mettre partout des jeunes, mais il faut aussi peut-être avoir une espèce de volonté de réduire la voilure sur certains joueurs qui ne méritent pas qu'on les paye aussi cher parce que l'apport sportif est discutable. Et à l'inverse, cette espèce de fierté d'avoir des jeunes qui arrivent, donc en l'occurrence des joueurs qui arrivent jeunes au club, qui sont pas forcément formés, parce qu'on ira dans le détail tout à l'heure, mais c'est pas beaucoup, c'est de la post-formation, qui sont pas
Oui, bien
formés
sûr.
d'abord à Turin, qui arrivent à, je sais pas, 15, 16, 17 ans, donc on est sur de la post-formation, mais qui néanmoins ont un parcours de progression dans les équipes de jeunes de la Juve, et mine de rien, le supporter de n'importe quel club, eh ben, il ressent une sacrée fierté quand il voit sur le terrain des joueurs qu'il a vus avec les U23, avec les U19, avec les U18, des mecs qui, alors maintenant c'est un peu plus discutable, hein, se sont attachés ou pas,
C'est
on
ce que
sait que
j'allais dire, mais oui,
l'attachement
bien
est plus ou
sûr.
moins discutable, mais quand même, quoi, c'est des jeunes joueurs qui en plus sont performants, c'est ça le truc, c'est qu'on oppose souvent, tu sais, en Italie, dans cette schizophrénie de. C'est soit tu as le jeu, soit tu as les résultats. Soit tu as, et donc, les résultats, c'est soit tu as des résultats avec des joueurs expérimentés, soit tu fais du beau jeu avec des jeunes. Comme si c'était, fallait faire une ligne de démarcation entre les deux possibilités. Non, en fait, tout est mêlé aujourd'hui. On ne raisonne plus comme ça. Et donc, les supporters, je pense qu'aujourd'hui, même si beaucoup sont encore insatisfaits de la qualité de jeu développée par les hommes de Massimiliano Allegri, je pense que par contre, ils ont au moins ce plaisir de se dire, bah regarde les petits gamins qu'on a recrutés à 15, 16, 17 ans, et bah aujourd'hui on les voit en équipe première et en plus ils sont performants.
Et pour revenir un peu sur ce que je disais sur l'attachement au club, en plus, ces jeunes-là, plus tôt ils arrivent, alors même, voilà, tu as dit en fonction des âges, mais ils comprennent aussi les valeurs du club, parce qu'on sait que la Ligue, évidemment, est un grand club, et ils s'y prennent très tôt au niveau de inculquer les valeurs aux joueurs, leur faire comprendre où ils sont, parce que voilà, la tradition. Qui se transfère de génération en génération. Mais tu sais, Yoann, petit laïus, voilà, pour changer de débat, allez, regarde, 10 secondes, regarde la Roma. La Roma, qui est un des meilleurs centres de formation d'Italie, tu me le confirmeras, toi qui suis beaucoup les formations italiennes. Pourquoi aujourd'hui, tu vois, quand je vois un joueur comme Bove, comme Edoardo Bove, par exemple, bah, tous les tifosi de la Roma me disent, bah oui, on est fiers de le voir, c'est un joueur qui sait où il joue, l'attachement au club, et en plus, il est bon, on est patient avec lui, plutôt que d'aller chercher des joueurs ailleurs. Alors, on va pas reciter Paredes, tu vois, mais
Ou Renato
quand
Sanchez.
t'as, voilà, ou Sanchez qui pourrait repartir en janvier, tu vois, il y a des fois quand même où tu te dis, notamment à la Roma où la politique du mercato est quand même discutable depuis quelques années, quand t'as un centre de formation qui est aussi productif et aussi bon que le tien, pourquoi tu ne tentes pas de plus lancer justement des jeunes? On sait que les résultats quand même, alors à part cette victoire en Ligue Europa Conférence il y a 2 saisons, voilà, c'est assez triste quand même en championnat. Pourquoi ne pas entamer justement ce virage-là? Pourquoi ne pas prendre ce virage-là? Surtout quand tu vois que derrière, bah, les jeunes poussent. Et en plus, dans une ville que tu connais bien, Johan, à Rome, le sentiment d'appartenance est hyper fort. Donc tu peux penser que les joueurs de la Roma, les jeunes joueurs de la Roma, savent où ils sont et savent ce que représente la Roma pour les supporters. Donc parfois, ça peut causer des torts parce que tu es tellement attaché que, voilà, ça fait penser parfois à des Rossi, tu sais, qui pouvaient. Dans les derbies, on va dire, voilà, être un peu dans l'excès. Mais voilà, je trouve, dans ce petit laïus-là, tu vois, que la Roma, c'est dommage qu'elle. Alors, j'espère qu'elle le prendra et qu'elle va suivre aussi l'exemple que la Juve est en train de faire. Mais je trouve ça
Mais
dommage
tu
qu'un
sais,
club comme
Guillaume,
celui-là, que voilà, ça
je me
suit pas.
permets juste de te couper un instant.
Oui?
Combien de fois dans ce podcast, Guillaume, toi et moi, on a dit combien on était déçus que l'Inter sacrifie un joueur comme Cazadei
Pour
pour
Vidal.
prendre, ouais, pour Vidal, et puis, alors effectivement, il n'y avait pas que lui, mais pour prendre des joueurs extrêmement vieillissants dont l'apport a été plus que discutable, en fait.
Mais Yoann, regarde aujourd'hui Sanchez devant et Arnautovic. T'as un joueur comme Pinamonti quand même, tu vois, qui aurait pu avoir sa chance aussi à l'Inter, qui est un jeune très intéressant.
Ou
Voilà,
encore
il y
plus
a tout.
jeune, le Pio Esposito qui est en prêt.
Oui, bien sûr,
Pourquoi il
bien
n'aurait pas
sûr.
pu être quatrième attaquant? Enfin, je sais pas.
Voilà, c'est non, mais c'est pour ça, tu vois, la Roma, moi, ça m'y fait penser parce que justement, bon, vu la situation sportive actuelle et de ces dernières années et tout le bien qu'on entend en Italie, croyez-moi, de la formation à la Roma qui a toujours été très bonne depuis des années maintenant. Ça fait des années qu'on parle de la formation à la Roma et encore aujourd'hui, bah, voilà, t'as quelques jeunes qui commencent ici et là, mais voilà, ça a du mal quand même à s'installer. Alors, pour revenir à You, c'est vrai. Voilà, il y a quand même ce virage. Alors, on a bien fait de contextualiser. Il y a eu ce virage qui a été pris, voilà, par la contrainte économique, politique, et la contrainte aussi, bah, qui s'impose avec le temps, où aussi tu as les jeunes qui poussent et tu sens bah, qu'ils peuvent avoir leur chance. Aussi, ce qu'on n'a pas parlé, c'est aussi les blessures qui ont parfois poussé Max Allegri à donner la chance à plusieurs jeunes. Parce que voilà, on connaît tous Max Allegri et voilà, c'est pas celui généralement, c'est pas l'entraîneur, on va dire, propice à lancer des jeunes dans le grand bain. Mais voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de blessures ces dernières années et il a été parfois contraint à lancer des jeunes dans le, on va dire, dans le grand bain et ça a fonctionné.
Mais l'un des vrais problèmes du football italien, de toute façon, c'est que la politique de jeunes, enfin de faire jouer des jeunes joueurs, n'est pas un projet sur le long terme, c'est une obligation à court terme pour des problèmes de blessures, de suspension ou de très mauvaises performances, parce que Paredes, c'était plutôt des mauvaises performances, Pogba, c'était des problèmes de blessures. Et je pense sincèrement que ce qu'ont montré Fagioli et Miretti l'année dernière, ça doit aussi encourager les dirigeants de la Juve à continuer cette politique-là, parce que ils ont vu que ces joueurs-là, s'ils étaient bien encadrés, c'est pour ça que l'idée, c'est pas de mettre que des jeunes, ça n'existe pas en fait, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas. Il faut qu'ils soient encadrés. Même par exemple, on parle d'un entraîneur que moi j'aime bien, hein, Roberto De Zerbi, qui aime travailler avec les jeunes, mais si vous regardez son Brighton, il y a des Pascal Gross, il y a des Solly March, il y a des Danny Welbeck, il y a des Joël Veltman, il y a des trentenaires en fait qui encadrent tous les jeunes joueurs, les Adingra, les Mitoma, l'année dernière les McAllister, les Caicedo, etc. Ils étaient entourés par, cette année, Evan Ferguson devant. Ils sont entourés par des joueurs d'expérience. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément des trentenaires, hein. Ça peut être des joueurs de 25-26 ans qui commencent déjà à avoir de l'expérience. Mais je trouve que là, Guillaume, avec ce virage pris par la contrainte économique du côté des dirigeants, par la contrainte sportive du côté de Max Allegri, tu l'as cité l'année dernière, les blessures, mauvaises performances de certains joueurs qui ont amené des jeunes joueurs à avoir du temps de jeu et eux de répondre tout de suite à ce que demandait la Juve, c'est-à-dire être compétitif. Et c'est un point essentiel pour moi, Guillaume, c'est que amener des jeunes joueurs, s'ils sont talentueux, ça ne posera pas de problème en termes de compétitivité. Et éventuellement, si ça t'en apporte sur le très court terme, sur un match, deux matchs, une série de cinq matchs, ça t'amènera tellement de choses positives sur le moyen long terme qu'il faut aussi accepter de parfois reculer d'un pas sur le court terme pour en faire 2, 3, 4, 5 en avant assez rapidement finalement juste derrière. Donc vraiment, moi je... Si vraiment la Juve poursuit dans cette direction-là, moi je serais très séduit sincèrement.
Mais bien sûr.
Parce que au-delà des... Enfin, avec les cadres hein, qui sont forts, Guillaume, les Bremer, les Chiesa maintenant qui n'est pas si vieux que ça, mais qui a un cadre. Les Vlahovic, qui est un cadre aussi. Adrien Rabiot, qui est un cadre. On verra ce qui se passera cet été. Locatelli, qui commence à devenir un cadre aussi. Danilo, Chesney. Enfin bref, hein. Tu vois, il y en a plein. J'ai une idée qui me vient comme ça en même temps que je donne un autre argument. Mais regarde, Guillaume. Alexandro, quel est son apport depuis 2 ans à la Juve?
Sur le terrain, en tout cas, très peu.
Ouais. Donc, c'est pareil. Enfin, tu vois, il y a des joueurs que tu vas pouvoir remplacer assez facilement parce que soit il n'est pas bon Alexandro, soit il est blessé. Il a quand même pas mal de blessures hein, ces derniers mois. Tu peux aussi glisser assez facilement sur certains joueurs en fin de cycle dans un club, les renouveler avec des plus jeunes joueurs, Guillaume.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et surtout, tu vois, Johan, cette politique-là qui a été instaurée à la Juve depuis quelques temps, quand même, elle a créé, je trouve, une espèce, tu sais, de paix avec l'environnement. Parce que, voilà, tu l'as justement dit tout à l'heure, les supporters ne sont pas bêtes. Étaient toujours plus tolérants avec un jeune joueur plutôt qu'avec un joueur expérimenté. Donc, même s'il passe à travers une, deux, trois fois, et ben, la quatrième, ce sera la bonne. Et là-dessus, aujourd'hui... Il y a quand même, en général, en Italie, il y a quand même toujours des difficultés à lancer les jeunes. Et on voit bien, Johan, le problème qu'il y a aussi avec la sélection. Parce que la finalité de tout ça, c'est les problèmes qu'on se retrouve en sélection à chaque année presque. Mais quand même, voilà, ce virage idéologique qui est en train d'être pris à la Juve, pour toutes les raisons qu'on va énumérer, pour placer un peu le décor, je trouve que, au-delà du contenu de Allegri, dont on a beaucoup parlé dans ce podcast-là ces derniers mois, je trouve quand même que, je ne dirais pas qu'elle a racheté l'environnement, mais voilà, je trouve qu'elle l'a pacifié et je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même de la sérénité autour de ça. Il y a beaucoup plus de patience. Et je trouve que c'est bénéfique à tout le monde. Et je pense vraiment que la Juve l'a compris, même en interne. Je pense qu'ils se sont dit, mais en fait, c'est peut-être ça le secret pour repartir de l'avant, parce que la Juve, Johan, était tombée quand même assez bas.
Bah, en termes de
années, lui...
résultats,
voilà,
d'économique aussi.
de coach, de coach, il y a eu beaucoup de changements, de Sarri à Pirlo, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, de problèmes, mais voilà, aujourd'hui, on sent quand même que tout s'est calmé, grâce aussi à cette nouvelle politique-là qui est encensée et qui est comprise par tout le monde. Donc, voilà, moi, j'espère que ça va durer avec le temps. Et maintenant, Yoann, je pense qu'on va parler un peu plus, on va rentrer dans le spécifique de ces jeunes qui sont en train justement d'exploser, on peut dire, avec la Youth.
Exactement. Alors, on va faire un petit name dropping, mon cher
Oui.
Guillaume. Alors, Kenan Yildiz, 18 ans. Joseph Nange, je ne suis pas certain de la prononciation d'ailleurs. J'ai eu beau me renseigner sur des sites belges. C'est un peu compliqué, 18 ans. Dinhuizen, qui a été prêté à la Roma, mais qui appartient à la Juve. D'ailleurs, il n'y a pas d'option d'achat, hein, 20 ans. Fabio Miretti, 20 ans. Samuel Illing Junior, 20 ans. Nicolò Fagioli, 22 ans. Auquel on va ajouter Guillaume, même s'ils ne sont pas. Alors, ils ont commencé leur développement avec la Juve, mais là, cette saison, ils sont en train de franchir un cap, on va dire, avec une autre équipe en Serie A, Frosinone, et Mattia Soulé, 20 ans, 17 titularisations quand même, déjà avec Di Francesco, 8 buts et une passe décisive. Enzo Barrenechea, 22 ans, 17 titularisations aussi. Les deux joueurs hein, sont vraiment des cadres hein, de Frosinone et cette saison. Et puis, des joueurs qui avaient déjà été prêtés et qui ont un temps de jeu quand même assez conséquent. Nicolò Rovella, 22 ans, 12 titularisations à la Lazio. Et Conny De Winter, 21 ans, 11 titularisations avec le Genoa. Alors pour le moment, les quatre derniers sont développés par d'autres entraîneurs. Ok, mais c'est aussi logique. C'est-à-dire que dans tous les jeunes talents qu'a la Juve, tous ne pourront pas s'exprimer directement en passant des U23 à l'équipe première. Certains devront être prêtés parce qu'il y a une masse de joueurs aussi qui est très importante. Donc, c'est pas illogique. Le prêt, c'est toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu casse-gueule. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'équipe réserve en série C est une bonne alternative. Parce que quand tu prêtes un joueur, t'as pas le contrôle sur le joueur. T'as beau essayer de te renseigner au maximum sur, évidemment, qui va être l'entraîneur, quel temps de jeu il pourrait avoir, etc. Quand la saison défile, bah, l'entraîneur peut parfois partir. Parfois, il y a une urgence de résultat et on sait qu'en Italie, urgence de résultat égale bah, les jeunes n'y jouent plus. Donc, il y a pas mal de facteurs que tu ne peux pas gérer. Et cette équipe U23, elle permet de diminuer tous ces facteurs extérieurs en internalisant ces ressources-là à un niveau supérieur. Et je trouve ça vraiment intéressant. Mais malgré tout, il y aura quand même des joueurs qui, pour une étape encore supérieure à la U23, devront être prêtés. Et Frosinone a été assez intelligent pour donner du temps de jeu aux jeunes joueurs. Guillaume, quel est le joueur qui te, allez, on va dire, qui te fait briller l'œil? Là, on va parler juste du début de saison, enfin de cette première moitié de
Oui,
saison.
écoute, forcément, si je dois, on va dire, sur l'euphorie du moment, voilà, ils disent, forcément, c'est un joueur qui te. Tu sais, on a fait dans notre podcast, dans notre long podcast du calendrier de l'Avent, Johan, on avait fait un peu le joueur frisson, et tu sens que ils disent, ça peut être un peu, tu vois, celui qui te provoque ce frisson-là, parce que. C'est vraiment un talent brut, tu le sens, il a du football dans les pieds, il a un talent qui est naturel et tu le sens que c'est un joueur qui, en fait, alors qui évidemment a encore beaucoup, beaucoup d'axes d'amélioration, mais tu sens que c'est un joueur qui est prêt parce qu'il a ça en lui et tu sens qu'il attendait ce moment-là pour exploser et pour exposer ce talent à tout le monde. Donc voilà, sur l'euphorie du moment, forcément, je te dirais, ils disent. Après, tu vois, il y a un joueur. Alors qu'on a un peu moins vu ces derniers matchs, c'est Miretti. Mais quand tu regardes un peu les stats, il y a quand même déjà plus de 60 matchs avec la Juve. Donc tu vois, tu as aussi des jeunes qui commencent à avoir certains bagages, mine de rien, avec le club. Mais en tout cas, voilà. Mon joueur frisson, en tout cas, en ce moment, ce serait Yildiz. Et toi, mon cher Johan?
Ouais, je vais pas changer parce que c'est non, mais
C'est
c'est vrai que
évident, c'est évident.
ouais, c'est évident. C'est vrai que Illing Junior, j'aime bien sa capacité d'accélération, sa puissance sur le côté. Je trouve qu'il apporte quelque chose. D'ailleurs, en parlant de cadre un peu défaillant, Kostic, hein, ça fait quand même quelques mois où c'est pas génial, hein. Donc, j'aime bien quand Illing Junior prend ce côté-là, même si Est-ce qu'il serait pas mieux encore un cran plus haut? Je sais pas, mais enfin bref, toujours est-il que Ealing, c'est un joueur intéressant. Miretti, tu l'as dit, c'est un joueur intéressant. Fagioli, malheureusement, on le voit pas pendant plusieurs mois et on sait pourquoi. Mais c'est un joueur qui, moi, me plaît encore plus que Miretti pour le coup. Alors, il a 2 ans de plus, hein, ou même 2 ans et demi, je crois, de plus que Miretti. Mais Fagioli, c'est vraiment, moi, un joueur qui me plaît beaucoup pour l'avoir vu en prêt à la Cremonese, notamment en Serie B. C'est pareil, c'est un joueur qui me. Ouais, c'est vraiment un joueur qui me plaît beaucoup, mais Kenan, il dit, c'est. C'est.
2005, ils disent, Johan.
Ouais,
2005.
c'est talent brut, c'est 18 ans, c'est la fantasia, c'est l'instinct, c'est la qualité technique,
La
l'accélération,
création.
la création, c'est. Ouais, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, il faut bien le driver. Mais là, ce qu'on voit pour l'instant sur ses apparitions, oui, c'est chouette. Hein. Et après, j'aime bien Dinhuizen aussi. Hein. Pour l'avoir vu avec les U23 de la Juve, c'est vraiment un joueur intéressant. Il faudra voir, mais la qualité technique de relance de ce défenseur central-là, elle peut être extrêmement moderne,
Ouais, la première
extrêmement utile.
relance, ah,
Ouais.
exactement.
Guillaume, juste un petit laïus quand même sur, parce qu'on a tourné un petit peu autour, mais l'apport de cette équipe réserve. Donc, on rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers de cette Next Gen, d'ailleurs qui a été renommée, hein, puisqu'au départ c'était Juve U23, je crois, hein, le
Oui.
Juventus U23, qui a été renommée Next Gen pour faire très international et un peu hypant, clairement, le nom. Donc, Série C, troisième division, niveau plus compétitif évidemment que les U19, hein, le plus haut niveau. Déjà en Italie, qui est la Primavera, joue contre des adultes. Et ça, c'est important. Et je voulais faire juste un petit laïus parce que c'est un système que je connais bien aux Pays-Bas, puisqu'il y a 4 équipes professionnelles qui ont une réserve. Donc, c'est qui s'appelle Young et le nom du club. Donc, Young Ajax, Young AZ pour le club d'Alkmaar, Young Utrecht et Young PSV. Et qui jouent en deuxième division, eux. Il y a évidemment moins d'échelons, pays plus petits, etc. Mais deuxième division qui est professionnelle également, qui ressemble, si vous voulez, un peu à la Série C, clairement, italienne. Et où ils sont en capacité de jouer contre des adultes, de se développer. Et dans ces équipes réserves, on va les appeler néerlandaises, il n'est pas rare d'avoir des joueurs de 15-16 ans, en fait, qui débutent 16 ans. C'est commun, en fait, des joueurs de l'Ajax à 16 ans qui vont jouer en D2. Néerlandaise, c'est commun. Et j'avais écrit tout un papier il y a quelques mois là-dessus, tu vois, en parlant à des gens de l'Ajax, etc., des joueurs aussi qui sont passés par ce système-là. Et tout le monde m'expliquait qu'il était extrêmement important dans le développement des joueurs. Et je pense que la Juve a vraiment senti le bon truc, l'a fait. C'est la 6e saison, je crois, cette année, de cette équipe U23. Seule l'Atalanta a suivi pour l'instant. Il y a d'autres clubs qui te disent d'un côté, oui, on aimerait, de l'autre, ils prennent toujours l'argument, enfin, presque toujours, très souvent, l'argument économique, parce que grosso modo, c'est un petit budget, hein, c'est on va dire entre 5 et 10 millions d'euros, le fonctionnement global, hein. Donc, évidemment que ça a un coût à très court terme, mais il faudrait voir aussi. Guillaume, quel va être l'apport à long terme? Et c'est là où les dirigeants devraient avoir un petit peu plus de courage, d'accepter plutôt que de prendre un joueur qui finalement va te coûter quasiment 10 millions à l'année en termes de salaire, plus de recrues, bah peut-être miser ces 10 millions d'euros-là. Ça peut être moins aussi, hein. Je pense que tu vois, si le Genoa faisait une équipe B, ce ne serait pas 10 millions d'euros, hein. Mais prendre cet argent-là pour créer cette fameuse deuxième équipe et. Ça participe aussi à une restructuration du championnat parce que tu peux pas faire une série C qu'avec les réserves aussi de clubs professionnels. Donc il faut une réorganisation, mais ça se travaille. Enfin, je veux dire, prévoir l'avenir, ça se travaille. Hein. C'est du boulot, c'est pas un claquement de doigts. Mais je pense que tous les clubs italiens, vraiment hein, tous les clubs de Serie A auraient intérêt à avoir une équipe réserve, mais on
Et
verra ça.
d'ailleurs, on peut dire qu'à la tête de la Juve Next Gen, c'est Claudio Chiellini, hein, qui est revenu, qui était parti en juin 2021, qui est revenu, je crois que c'était en juin 2023, 2 ans après son
Et qui était
départ. Donc
à
c'est lui.
Pise, hein, je crois, hein, qui était
Oui,
directeur sportif de
exactement.
Pise. Hein.
Il a fait 2 saisons à Pise. Et il est revenu à la Juve, on va dire, voilà, il coordonne un peu tout ce qui se passe justement autour de la next-gen, pardon. Et aussi, Johan, on parle des infrastructures, parce que la next-gen de la Juve dispose aussi de grosses infrastructures. C'est-à-dire que tu mets à disposition de tes jeunes comment dire, toute la mécanique, tout ce qui permet
toutes les ressources.
Un jour, exactement, toutes les ressources pour passer justement ce cap, pour devenir un jour professionnel et atteindre et connaître aussi le quotidien des professionnels. Mais voilà, toi qui suis, Johan, justement, moi j'avais une question, tout ce monde, on va dire, de jeunes, comment tu évaluerais le pas que passe, on va dire, un jeune joueur de la Primavera d'une équipe, donc de l'équipe réserve, on va dire, à, alors je te dis une bêtise, à la Serie A, donc est-ce que c'est un grand pas? Est-ce que tu penses que la Next Gen, justement, permet de réduire cet écart qui peut parfois se créer entre la Primavera et donc le championnat DU19 et la Serie A? Et je prends un exemple tout bête qui est assez évident. Alors, c'est un exemple aussi un peu extrême parce qu'il n'a que 15 ans, mais tu vois, quand on a vu Camarda commencer jouer quelques minutes avec l'AC Milan, on a vu toute la différence. Mais là, il a 15 ans, donc voilà, c'est un cas un peu extrême. Mais est-ce que tu penses vraiment que la Next Gen réduit justement cet écart que tu peux avoir entre la Primavera et une équipe pro en Italie?
Alors, je pense sincèrement que oui, en me basant aussi sur ce que j'ai vu aux Pays-Bas. Ça n'empêche pas qu'il y a des joueurs qui peuvent passer directement de la Primavera, donc du niveau U19 à l'équipe première, hein, parce que finalement, tu parlais tout à l'heure de la Roma, tous les joueurs de la Roma passent directement des U19 à l'équipe première. Sauf si tu es prêté, par exemple en Serie B, et par exemple un joueur comme Florenzi avait été prêté d'abord à, de mémoire, à Crotone, je crois, en Serie B, avant d'être lancé par Zeman en Serie A. Donc c'est aussi une possibilité, mais tu vois, tu en reviens à une chose en fait, c'est que prêter un joueur, c'est pas que tu n'as pas l'assurance que ça va lui être profitable. C'est juste que tu as beaucoup de facteurs extérieurs, puisque ce n'est pas dans ton club, que tu ne peux pas gérer. Et cette équipe U23 te permet d'augmenter le niveau de compétitivité parce que tu vas jouer contre des adultes. Et la plus
en
grosse...
interne.
Voilà, en interne, et de gérer tout en interne, et de pouvoir programmer tout pas à pas en interne, sereinement, sans éléments extérieurs qui viennent perturber, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire Et rien que le fait de jouer avec les adultes, c'est ça, je reprends. La plus grosse difficulté, une des plus grosses difficultés quand un jeune joueur arrive, alors tu parlais de Camarda, mais il y en a d'autres, hein, parce que lui, alors il a 15 ans, mais il est quand même déjà, moi à 15 ans, j'étais pas bâti comme ça, hein, il a quand même déjà un beau physique, le garçon, mais le plus dur, c'est deux choses, c'est l'impact physique et l'intensité, pour deux raisons assez simples. C'est que plutôt que de jouer avec des adolescents, tu joues avec des adultes qui souvent ont 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, etc. Donc, jouer dans une division professionnelle, certes à un niveau inférieur, mais qui te présente ce panel de profils d'adultes, de joueurs, certains seront très rugueux, certains iront très vite, certains seront besogneux, accrocheurs, tout ça te fait progresser finalement. Et je pense vraiment que c'est la voie à suivre. Ça pose plein de questions et je suis d'accord pour dire que c'est pas simple. Moi, j'ai le rôle facile. Enfin, on a le rôle facile, Guillaume, de dire ça. Nous, on est assis et on fait un podcast. Mais il y a plein de données qui doivent être modifiées. Je parlais de la restructuration des championnats. Évidemment que la Série C ne peut pas d'un seul coup accueillir. Si les 20 clubs de Série A décident d'avoir une équipe réserve, ce sera un chamboulement énorme. Donc, il faut travailler sur ça. Bien sûr qu'il faut des infrastructures et... Finalement, le retard que prend l'Italie à tous les niveaux, on le retrouve là, Guillaume. Retard d'infrastructure qui t'empêche aussi d'avoir des équipes B. Le fait de ne pas faire confiance aux jeunes, ça retarde ta sélection nationale. Enfin, tout est lié finalement. Et c'est pour ça qu'il faudrait limite un grand plan de développement du football en Italie où il y aurait les autorités qui, plutôt que de mettre un decreto crescita pour financer le mercato des clubs, ce que je trouve totalement absurde. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'il l'ait abrogé, mais on en fera peut-être un podcast, mon cher Guillaume. Parce que moi, je ne suis pas du tout dans la mouvance des dirigeants chouineurs italiens qui se succèdent au micro pour dire on va perdre des stars, on va perdre des stars. Si c'est pour perdre Pogba et Paredes, j'ai envie de te dire, ce n'est pas très grave hein, de ne pas pouvoir recruter ces joueurs-là. Alors, je suis désolé, je ne parle que de Pogba et Paredes parce qu'on a focus Juve, hein, mais même un Kostic, hein, l'apport de Kostic, finalement, sera discutable, moi, je pense, sincèrement. Donc, bon, bref. Mais il faudra un grand plan où le gouvernement, s'ils veulent aider le football, parce qu'ils ont dit on enlève le decreto crescita, mais peut-être qu'on peut aider le football différemment. Bah, travaillons sur les infrastructures. Je ne sais pas, faites des crédits d'impôt sur la mise à jour et l'amélioration, la modernisation des Settore Giovanili en Italie, par exemple. Tu vois, c'est une mesure, ça, Guillaume.
Évidemment, mais.
Aider à faire en sorte que les centres de formation soient meilleurs, aider à acquérir des terrains, par exemple, faire des crédits d'impôt sur des acquisitions de terrains. Je ne sais pas, il y a plein de choses qui peuvent être faites où tu peux solliciter l'aide de l'État, mais l'aide de l'État pour faire venir Lukaku, Pogba, Paredes, Çelik, Jovic, machin, quel est l'intérêt? Je ne comprends pas ça. Donc voilà, tout est embriqué en fait, et si on veut vraiment que ça se développe, bah, il faudra qu'il y ait une intervention à plein d'échelles en Italie pour que ça se débloque finalement.
D'ailleurs, en ce moment, il y a quand même un mouvement au sein de la Serie A, hein, pour que le gouvernement donne des aides aux clubs, alors pour différentes choses, dont les stades. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés pour les clubs à construire leurs stades, on le voit un peu partout. Mais ouais, il y a quand même encore aujourd'hui, hein, alors on est le 12 janvier, mais dans la Gazzetta, il y avait encore un appel du président du Torino, Urbano
Ben ça.
Cairo. Bah voilà, forcément, parce que on va dire c'est bon journal parce que là, son
Tu penses qu'il a
groupe.
eu du mal à faire passer sa lettre, ou pas dans son propre
Tu sais,
journal?
Johan, que sans te mentir, je pense que tous les jours, je lis la Gazzetta et tous les jours,
Bien
il y a
sûr.
une intervention du
C'est une
président
dinguerie, hein,
Cairo.
c'est une dinguerie.
Mais tous les jours, je crois, sans exception. Sur une semaine, il faudrait que je calcule, ce serait très drôle.
Et puis tu
Mais
sais,
donc,
dans la pagination, des fois, le taureau arrive avant les clubs romains et le Napoli, t'as envie de
évidemment.
dire,
Ah
attendez les
oui.
gars.
Ah, mais c'est exceptionnel. Mais voilà, parenthèse fermée. Il y a quelque chose qui m'a fait un peu tilter quand tu parlais justement du système un peu en interne et l'avantage d'avoir une équipe U23, Johan, aussi celle du schéma. C'est-à-dire que tu peux reproduire le schéma et même la politique ou même le jeu que tu veux instaurer dans l'équipe première, dans l'équipe U23. C'est-à-dire que, parce que toi tu disais que des éléments que tu ne contrôles pas en prêtant un joueur, c'est vrai. Imaginons, j'ai un jeune joueur, un jeune défenseur que je veux prêter dans un club, on va dire, de série B pour qu'il continue à éclore et à grandir. C'est un défenseur. Moi, j'ai mon équipe première qui joue à 4 derrière et je le prête dans une équipe qui joue à 3. Forcément, il va acquérir des automatismes bah, qu'il n'aura pas si, quand il revient,
Tout à
moi, je
fait.
joue une tour à 4. Donc, voilà, c'est un exemple, mais c'est aussi l'avantage, pour revenir sur ce que tu disais, de travailler en interne. C'est une politique. Alors, je sais que ça a été longtemps fait aussi à l'Ajax, hein, que tu connais bien, mais voilà, c'est un système que tu peux instaurer à tous les étages, un système tactique, un système de politique, un système de valeurs, un système de dogmes, voilà, quelque chose que tu peux instaurer un peu partout. Et d'ailleurs, les entraîneurs aujourd'hui aiment beaucoup aussi, hein, voilà, venir étudier les jeunes, voir leurs progrès. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même suivi par, on va dire, les entraîneurs de la vague plus moderne que les anciens, mais en tout cas, voilà, c'est l'un des avantages aussi de garder tes jeunes au sein de ton club, c'est que tu peux instaurer bah, une politique de jeu à l'équipe première et à l'équipe next-gen, puisqu'on parle de la Juve.
Tu sais, j'ai été très marqué évidemment par Johan Cruyff, suivant un peu les Pays-Bas. Et il y a. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de principes sur le football. Et un de ses principes, c'était pour l'Ajax, on ne recrute que des joueurs qui sont forcément supérieurs à ceux qu'on forme. Si on cible un joueur et qu'il n'est pas meilleur que notre gamin conforme, avec une projection en se disant, est-ce que le gamin conforme dans 3 ans, il sera pas meilleur que le joueur qu'on veut recruter? On ne doit pas le recruter. Et je pense que c'est un peu ce qui doit se passer à la Juve cet été. Les Kenan Yildiz, les Mathias Soulé, les Fabio Miretti, les Fagioli, les Rovella, les Huijsen, les Barrenechea, ça fait beaucoup quand même.
Cambiaso aussi, pour en
Cambiaso
oublier, ah
également
ouais.
aussi. Quand la Juve va aborder son mercato d'été, j'aimerais, on verra si ça se réalise, mais j'aimerais que les dirigeants se disent, est-ce que le joueur qu'on veut recruter, on est certain que à court terme, il va beaucoup plus nous apporter que les joueurs que je viens de citer? Et est-ce que dans 2 ans, les joueurs que je viens de citer, si on met en place tout ce qu'il faut pour que leur développement continue, est-ce que dans 2 ans, le joueur qu'on veut recruter sera forcément meilleur que le joueur qu'on a déjà? J'aimerais que ça se passe comme ça. Je ne sais pas si la Juve est prête à ça encore. On verra. Mais je trouve qu'il y a quand même suffisamment de bons jeunes joueurs là sur lesquels s'appuyer. Je ne dis pas qu'il faut en mettre 5 titulaires. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, et d'ailleurs, je ferai un petit laïus après sur l'utilisation des jeunes cette saison, mais l'idée, c'est de se dire, on a suffisamment de bonnes matières chez nous, qu'on souvent on prend en post-formation, parce que Barrenechea, il vient de Sion, mais il était en Argentine juste avant. De Winter, il vient de Zulte Waregem. Kenan Yıldız, il vient du Bayern. Illing Junior, il vient de Chelsea. Mathias Souley, il vient de Vélez. Huijsen, il vient de Malaga. Nantes, il vient d'Anderlecht. Entre parenthèses, là-dessus, malheureusement pour Luciano Spalletti, il n'y en a pas beaucoup qui pourront jouer avec la sélection italienne, mais.
Cambiaso formé au Genoa aussi.
Ouais,
On
voilà,
le fait.
exactement. Miretti formé à la Juve. Fagioli formé, post-formé à la Juve, puisqu'il arrivait, je crois, à 14 ans. Donc il y a quand même aussi des exemples de joueurs formés à la Juve. L'idée, c'est vraiment de se dire, je ne sais plus où j'en étais, donc je reprends vite fait. L'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que les joueurs qu'on recrute, est-ce qu'on ne peut pas développer, voilà, c'est surtout ça l'idée, est-ce qu'en mettant vraiment tout ce qu'il faut en place pour développer nos jeunes joueurs, est-ce qu'ils ne peuvent pas atteindre un niveau qu'on estime être le niveau moyen du titulaire à la Juve. Et dans l'axe de développement, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il faudra se poser quand même la question de l'entraîneur. Est-ce que cet entraîneur-là est en capacité à non pas simplement les faire jouer, les faire rentrer quelques minutes, mais aussi les faire progresser pour atteindre un niveau qui leur permettra de devenir des joueurs titulaires à la Juve. Ça, on verra, ce sera sans doute
C'est une vraie question.
dans un deuxième
Ouais,
temps.
c'est une vraie question. Même voilà, si la tendance voudrait quand même à un départ de Max Allegri, qui pourrait justement s'inscrire aussi dans cette nouvelle politique qui s'installe. Mais oui, ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder dans les prochains podcasts. Mais en plus, Johan, de tout ça, justement, moi, je pense que cette saison de la Juve, qui est bonne en termes de résultats en Serie A et en Coupe d'Italie, je pense vraiment que ça pourrait servir quand même d'exemple pour la suite, parce que voilà, il y a la hype un peu autour des jeunes qui a été créée à juste titre, parce que ça se base sur des faits. Le dernier exemple date, c'est Yıldız, qui est en train de performer et qui éclabousse quand même de son talent la Juve et même la Serie A. Et vraiment, je pense que ça pourrait être une base en plus des saisons dernières, parce que voilà, on voyait quand même les Miretti, les Fagioli qui commençaient à jouer, qui commençaient à éclore
Soulé
avec
aussi,
la
ouais.
Juve. Oui, ils se foulaient exactement. Mais voilà, je pense que cette saison-là, vu que ça performe, vu que tu es toujours en course pour le titre et vu que tu pourrais gagner la Coupe d'Italie, bah ça te montre quand même que même si tu fais jouer des jeunes, même si tu les intègres petit à petit, bah tu peux avoir des résultats et tu peux performer même à l'instant T en mélangeant évidemment le tout avec, voilà, avec un encadrement comme on l'a dit tout à l'heure. Mais je pense vraiment que ça pourrait servir de jurisprudence pour la suite, parce qu'on voit quand même que toutes les composantes, supporters, clubs, joueurs, équipes, vestiaires, entraîneurs, voilà, ça, on sent qu'il y a une unanimité autour de ce projet-là qui fonctionne sur le court terme, parce que la Juve est deuxième, pardon, à 2 points de l'Inter, et parce qu'elle est en finale de la Coupe d'Italie. Donc vraiment, là, tu as les résultats avec ce projet-là. Donc je pense vraiment que ça pourrait servir de socle, on va dire, pour la suite. Et tu parlais du mercato, je pense que ça va servir. La Juve va pas se dire, tu vois, il y a aussi l'exemple Pogba, Johan, hein, malheureusement,
Ouais.
qui te sert aussi un peu de mauvais exemple, parce qu'au-delà du, voilà, du cas du dopage qui est en cours de juridiction, voilà, c'était quand même un flop du début à la fin. Ça te sert quand même pour te dire, bon, c'est peut-être parfois mieux si on recrute personne et qu'on mise sur de jeunes joueurs. Donc, je pense que toutes ces composantes-là, justement, pourraient pousser la Juve à entamer et à confirmer, à poursuivre cette nouvelle politique.
Bah je l'encourage en tout cas, et je voulais juste terminer par un petit élément de contexte, parce que c'est une vraie tendance de fond, tout ce qu'on a expliqué, mais on n'en est qu'au début. Et il faut faire attention à ce qu'on peut lire dans la presse italienne, hein, où ça parle déjà de révolution, où on a l'impression que l'équipe de la Juve n'est constituée que de jeunes, ce qui n'est clairement pas le cas. Je répète que c'est une tendance de fond, et que c'est le début, et que c'est très bien déjà. Mais attention au terme de révolution, etc., etc. J'ai juste quelques chiffres quand même. L'âge moyen de l'effectif en cumulant le temps de jeu de tous les joueurs cette saison de la Juve, c'est 27,2 ans. On n'est pas non plus sur un effectif ultra jeune, sachant que c'est le huitième plus vieux de Serie A. Aucun des 11 joueurs les plus titularisés cette saison en championnat n'a strictement moins de 23 ans. Donc, il faut attendre le 12e, qui est Fabio Miretti, 12e joueur avec le plus de titularisation, 8 matchs en l'occurrence, et qui a 20 ans. Le second, c'est Kenan Yıldız, qui est le 18e joueur avec le plus de titularisation, 3 matchs, âgé de 18 ans. Et après, on a Fagioli, mais Fagioli, pour moi, il serait limite premier en fait s'il n'avait pas eu cette absence de plusieurs mois. Je pense que sincèrement, je pense même qu'il serait dans le top 11 pour le coup. Donc, c'est bien, mais là, on est plus sur une tendance à faire rentrer les joueurs, parce que là, j'ai parlé de titularisation, c'est pour ça que j'ai choisi ce terme-là et pas le nombre de matchs joués. C'est pour ça que je parle aussi d'un début de toute une construction qui est en train de faire la Juve, c'est qu'il va falloir aussi passer à un moment donné de quelques entrées en fin de match, un match de Coupe d'Italie et de temps en temps une titularisation à des joueurs qui sont capables d'avoir 15, 20, 25 titularisations dans une équipe compétitive. Mais ça, on ne va pas tout de suite le réclamer à la Juve. Ça viendra, je pense, naturellement s'ils continuent leur bon travail effectué actuellement. Et peut-être que dès la saison prochaine, on pourra avoir des joueurs qui seront capables d'avoir sur 38 journées, d'avoir 18, 19, 20 titularisations, par exemple. Parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ont vraiment ça en eux. Alors évidemment, Kenan Yıldız, hein, mais les Miretti, Fagioli, je pense même un Yling Junior, tu vois, et aujourd'hui, tu vois, un Dinhuizen, il faudra voir hein, son évolution, mais pour le suivre de près depuis un petit moment, c'est vraiment pas mal. Donc,
Mais comme tu dis, Johan, ça va aussi dépendre du futur coach. Je pense que,
et oui.
voilà, tu l'as brièvement évoqué. Voilà, ce serait trop long d'en parler, mais la politique, imaginons, si Allegri s'en va vraiment à la fin de la saison, est-ce que le choix du coach, justement, sera pris en fonction de cette politique qu'il instaure? Moi, personnellement, je pense que oui. Je pense qu'il y aura une volonté de miser sur un entraîneur qui est capable justement de faire grandir les jeunes, de les faire progresser et justement de les titulariser. Parce que comme tu dis, il y a aussi un cap à passer entre rentrer en jeu et commencer un match, notamment même en Coupe d'Europe. Parce que cette saison, la Juve ne les a pas, mais si elle revient avec des champions, il y aura forcément aussi un cap à passer de ce niveau-là. Donc voilà, je pense que si Allegri venait à partir en fin de saison, le choix du nouvel entraîneur quand même nous dira beaucoup sur la volonté ou non, mais je pense qu'elle sera là de poursuivre ce projet-là.
Pense qu'on a été assez complet, Guillaume, non?
Bah écoute, oui, il me
Bah
semble.
écoute, en tout cas, c'est plaisant à faire comme type de podcast parce que quand il y a des choses bien qui se passent, on aime bien aussi hein, l'évoquer, Guillaume, dans notre podcast. Et le travail qui est fait par la Juve et depuis quelques saisons maintenant, d'abord sur les jeunes, maintenant sur l'utilisation des jeunes dans son équipe première, ce qui est deux choses différentes, bah c'est bien de pouvoir en faire part à nos auditeurs, selon notre grille de lecture à nous et notre grille
C'est
d'analyse,
ça.
évidemment. Et puis, on espère que ça va aussi encourager, mais c'est une tendance de fond, hein, le Milan qui a gagné un Scudetto avec les Kalulu, etc., qui était en capacité de jouer Tio, titulaire au Milan. Enfin, voilà, il y a des clubs qui font Bové, on voit bien que Bové, et c'est pas moins bon que certains autres milieux de terrain. Enfin, que Aouar, que Renato Sanchez, aujourd'hui, qui a apporté le plus entre Eduardo Bove et Sanchez et Aouar? Bah, le choix, il est vite fait. Et ça, tu peux le multiplier dans pas mal de clubs, finalement.
Mais c'est sûr,
Regarde
c'est sûr.
la dimension qu'est en train de prendre Kayode à la Fiorentina. Enfin, voilà, il faut que cette Italie-là entre dans la modernité du football.
Mais
Voilà.
c'est ça, et en fait, pour finir, il y a aussi des concours de circonstances, tu vois, pour que les jeunes aient leur chance en Italie. Tu vois, tu parlais du Milan, avec toute la vague de blessures, qu'il y a eu ces derniers mois, forcément, bah. Tu vois, les jeunes joueurs, Camarda, voilà, fait ses débuts, on l'a dit, en pro. Les Jiménez, prêté par le Real, qui est très jeune, qui joue pour l'instant à gauche. Ben voilà, en fait, tu as beaucoup, beaucoup de jeunes, quand même, qui parfois, par nécessité et par obligation, parce que tu es en cours de saison et que le mercato, heureusement, n'est pas ouvert, ben tu es obligé quand même d'aller puiser dans tes réserves et de lancer parfois, peut-être que tu l'avais pas prévu, mais tu dois les lancer parce que ben, tu n'as pas d'autre choix que de le faire. Donc, regarde les Simic aussi en défense centrale à Milan. Donc, il y a beaucoup d'exemples à la Fiorentina, à la Rome, à Milan, qui font qu'aujourd'hui, bah, parfois, ce concours de circonstances-là te permet de découvrir et de certains nouveaux joueurs, certains jeunes joueurs qui auraient leur chance peut-être dans 2-3 ans, qui peuvent partir en prêt ici et là. Donc, parfois aussi bien quand les planètes s'alignent, Johan, en Italie notamment, pour que les jeunes joueurs aient leur chance.
Et il faudra aussi un dernier alignement sur toutes les planètes. Il faudra regarder du côté des entraîneurs, parce qu'on a évoqué simplement Allegri. Et il ne faut pas faire croire que c'est le seul en Italie qui préfère travailler avec des joueurs expérimentés et des joueurs qui permettent de gagner tout de suite. Il y aura peut-être aussi là quelque chose à aller chercher dans certains clubs pour que les jeunes soient en capacité d'être, un, pris en considération, deux, mis en confiance, trois, mis sur le terrain. Ça fait beaucoup de choses. Mais ne faisons pas passer Allegri pour le seul entraîneur qui veut une instant team capable de gagner tout de suite. Il y en a beaucoup d'autres en Italie. Et ça freine aussi le développement des jeunes joueurs. Voilà, Guillaume, pour ce podcast spécial Juve, utilisation des joueurs à la Juventus et qui préserve la next-gen. Pas mal de choses qu'on a évoquées quand même sur la stratégie sportive de cette équipe qui, Guillaume, nous séduit, il faut le dire. Sur en tout cas les contours de ce qu'on voit actuellement dans l'utilisation des jeunes. On verra si le club décide de poursuivre et même accélérer dans cette voie-là, ce qui ne serait pas une mauvaise chose. Les rappels habituels, Guillaume ?
Allez, on y va.
Les 5 étoiles.
Toujours. Évidemment, ça, c'est hyper important, Johan. Hein.
Alors, on remercie quand même, on en a eu encore un pendant les vacances, hein, à la fois sur Spotify, on en a eu énormément sur Spotify. Qui est de plus en plus une source d'écoute de nos podcasts et sur Apple Podcast également. Donc, n'hésitez pas à continuer. Comme tu le dis, Guillaume, ça prend
10 secondes.
Ouais, à peine. Et t'es généreux.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est ta générosité habituelle.
S'il y a le commentaire qui va avec.
Exactement.
Si il y a les 5 étoiles, ça prend 4-5 secondes. Et surtout, Johan, de 1, ça nous fait plaisir.
Ouais.
De 2, ça nous fait remonter dans les
podcasts. Dans les classements, ouais.
Exactement, et le 3, comme tu l'as dit, ça prend vraiment 5 secondes. Donc, n'hésitez pas, si ça vous a plu, si vous avez des retours à nous donner, des conseils, des idées pour les prochains podcasts.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
C'est toujours d'allier nos emplois respectueux parce que on a des emplois qui sont chargés aussi.
Ouais.
On essaie de d'être avec vous le plus possible. Mais voilà, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux, sur ce que vous pensez, ce que vous aimeriez pour la suite. Donc voilà, nous en tout cas on est là, on est toujours avec vous et on repart ensemble Johan pour cette année 2024.
Évidemment, et n'oubliez pas aussi d'aller faire un tour sur la boutique calcioepp.shop. Merci à toutes et à tous et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcioepp. Ciao ciao.